Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La barque de Pierre a connu et connaît des moments difficiles et a été assaillie par les tempêtes et les ouragans. Voilà ce que le pape François déclarait le 21 décembre 2018 à l'occasion de ses traditionnels vœux à la Curie, une phrase forte qui a pu laisser nombre de fidèles interrogatifs. Le pape parlait-il des crimes de pédophilie qui, comme du sang, ont éclaboussé l'église et la soutane blanche du pape pas seulement ? Semble répondre en écho notre invité de ce matin, auteur d'un récent livre qualifié par le pape lui-même de bombe. Un livre dans lequel l'auteur montre du doigt les ennemis actuel du pape, des chrétiens qui ne supportent pas l'élan de son pontificat. Comment l'Amérique veut changer de pape ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On a repris tout simplement le titre de votre livre, pourquoi faire compliqué ? Nicolas Senez, vous êtes donc correspondant permanent du quotidien La Croix au Vatican depuis 2016 et auteur de cet ouvrage paru aux éditions Bayard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris du temps ce matin. Je précise que vous êtes en duplex depuis Rome, depuis même le Vatican, depuis les studios de Radio Vatican, et on les remercie de cette collaboration. Donc vous avez sorti ce livre qui fait grand bruit pour ceux qui suivent un petit peu pied à pied l'actualité de l'Église. Ma première question, pour ceux qui n'auraient pas vu passer cet ouvrage, parlez-nous de l'écho qu'il trouve, on va dire, en France et entre autres outre-Atlantique. Voilà, votre livre a été qualifié par le pape François de bombe. Est-ce que la bombe explose ?
Oui, alors effectivement, dans le jour de la parution du livre, j'étais dans l'avion qui emmenait le pape François en Afrique pour le voyage dont on a justement parlé avec vous sur cette antenne l'autre jour. Et je lui ai donc offert l'exemplaire du livre, et c'était l'occasion effectivement d'une une courte discussion avec lui, où d'une part il m'a dit à quel point justement il n'avait pas peur de ces attaques fomentées par un certain nombre de catholiques américains. Il m'a dit « pour moi c'est un honneur qu'il m'attaque ». Et puis effectivement il a qualifié de bombe le livre. Je pense que c'était pour lui une occasion de susciter aussi la réaction d'un certain nombre d'autres catholiques américains, plutôt d'une majorité de catholiques américains qui continuent à le soutenir malgré les menées d'une petite minorité. Et c'était du coup l'occasion pour mes collègues américains de lui poser des questions là-dessus lors du vol de retour, quand on est revenu d'Afrique. Chaque fois que le pape revient d'un de ses voyages, il y a effectivement une conférence de presse. Et à l'occasion de cette conférence de presse, bien mes collègues américains ont saisi ce qu'il m'avait confié pour justement lui demander un certain nombre de précisions, voir comment il voyait les choses, et en particulier s'il craignait un schisme dans l'Église. On a eu l'occasion d'en discuter ici à Vivante Église, voilà. Et donc il a expliqué que non, il ne craignait pas un schisme, mais je crois effectivement c'était sa volonté de dire que voilà, un appel à l'ensemble des catholiques qui le soutiennent, peut-être silencieusement, de ne pas cesser de confisquer le catholicisme américain.
Alors juste pour revenir à ma question, quel écho trouve votre ouvrage en France, on en a pas mal parlé, pour ceux qui suivent un petit peu, outre-Atlantique, vous êtes intervenu sur de nombreux médias américains, expliquez-nous.
Oui, j'étais pas mal interviewé justement par mes collègues américains, à la fois dès l'avion avec ceux de mes collègues américains qui étaient dans l'avion en route vers le Mozambique, et puis depuis aussi beaucoup d'interviews de la part de collègues américains qui effectivement avaient senti un certain nombre de choses. Beaucoup du matériel que j'utilise pour mon livre vient des enquêtes qui ont pu être faites par mes collègues américains. Et voilà, ma spécificité, ma particularité était peut-être de remettre en perspective l'ensemble de ces révélations qui ont été faites depuis un an par la presse américaine et de la raconter à un public européen. Mais effectivement, un certain nombre de... Finalement, mes collègues américains voilà, on a eu l'impression que justement en remettant tout ça ensemble, en le re-racontant, ça leur permettait aussi de peut-être de sortir d'un point de vue trop américain pour justement avoir un peu plus prendre un peu plus de recul sur ce qui s'est passé depuis un an et demi maintenant.
Alors vous revenez, on va en parler, donc sur l'affaire Vigano, qui est donc cet ancien nonce apostolique à Washington qui a appelé à la démission le pape François, rien que cela. Et puis dans votre ouvrage, donc, vous détaillez, on va dire, tout ce que cette affaire révèle, et vous rappelez les lignes de force aussi donc du pontificat du pape François et du coup les causes, on va dire, de l'énervement, voire même de la rage d'une partie des chrétiens dans le monde. Juste à nouveau une question en préambule, on se dit à la lecture de cet ouvrage, mais pourquoi Nicolas Senez et pourquoi le journal La Croix? Dans le fond, cela peut concerner indirectement des chrétiens français. Pourquoi vous, Nicolas Senez, pour dénoncer cela?
Ce qu'il y a, c'est que finalement, le narratif qu'a imposé Mgr Vigano avec sa lettre, j'ai remarqué qu'il s'imposait aussi dans l'esprit d'un certain nombre de catholiques français. Il y a une presse américaine catholique extrêmement puissante, ultra-conservatrice, et qui a aussi une influence, effectivement, dans le catholicisme français, où doucement s'instillait peut-être cette idée que « Oh, ben, Mgr Vigano n'a peut-être pas tout à fait tort. Et puis, est-ce que François, quand même, n'aurait pas eu une position un peu ambiguë sur ce cardinal McCarrie? Qu'est-ce qu'il n'aurait pas couvert ici ou là des prêtres ou des évêques coupables d'abus sexuels ?» Donc, doucement, ça s'instillait. Et voilà, je voulais justement re-raconter cette histoire-là en reprenant, bien, à travers tout ce qui avait été dit, essayer de voir ce qui est vrai, ce qui est flou. Hein, on est vraiment dans en tout cas en ce qui concerne le brûlot qu'a publié Mgr Vigano, typiquement dans le fake news. Hein, c'est-à-dire le fake news, c'est pas une fausse information. C'est on prend un peu de vrai, on la retourne dans son sens, on y met un petit peu de pseudo-analyse et pour donner à cette analyse un peu les oripeaux du vrai, on met un peu de flou, tout ça, et ça devient quelque chose de très pervers. Et donc j'ai voulu essayer de reprendre cette histoire-là en montrant ce qu'il y avait de vrai, ce qu'il y avait de faux, ce qu'il y avait de flou, ce qu'il y avait d'ambigu. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre.
En tout cas, c'est un livre qui se lit presque comme un roman policier. On tremble quand même à la lecture de cet ouvrage. Il y a même des moments où vous dites vous-même, on a l'impression d'être dans un roman d'espionnage. Si on revient sur le début de l'affaire pour que tout le monde puisse suivre, cela commence donc le 26 août 2018. Mgr Vigano, donc je l'ai dit, ancien nonce apostolique aux États-Unis, lance un brûlot contre le pape, une lettre d'accusation, un long témoignage, c'est comme ça qu'il l'appelle, de 11 pages, où il remet en cause la manière dont le Vatican, et y compris le pape François, ont, on va dire, géré l'affaire McCarrie, qui est donc cet ancien archevêque de Washington, accusé de pédocriminalité. Rappelez-nous l'ambiance, puisque vous étiez, je crois, aussi dans l'avion à ce moment-là, ou presque, c'était au retour donc du voyage du pape François d'Irlande.
Oui, ça tombe comme une bombe dans la nuit. On découvre ce texte qu'il a publié sur un certain nombre de médias américains et italiens. Et donc, non seulement il accuse le pape François, et en fait, il accuse tout ce que le Vatican a compté de responsables depuis l'an 2000, d'avoir couvert les agissements du cardinal McCarrick, et il appelle le pape François à démissionner. Et à remettre sa charge en l'estimant coupable comme les autres. Et c'est énorme parce que voilà, on a là un ancien nonce apostolique.
Ça n'était pas n'importe qui, on en reparlera.
Qui est évêque, qui a été ambassadeur quand même dans un grand pays, donc qui appelle le pape à la démission. On n'avait jamais vu ça. C'est extrêmement fort. Et puis quand on a le texte sous les mains. Quand on le voit, on voit que cet appel à la démission est écrit en gras et souligné. Donc il y a vraiment la volonté d'appuyer là-dessus. Même si après, face aux réactions, Mgr Vigano et ses alliés vont essayer un peu de diminuer cet appel, il y a clairement la volonté de pousser le pape François à la démission, de la même façon que... comme Benoît XVI avait renoncé lui-même pour, pour d'autres raisons. Ces gens-là estimaient que bah, finalement, comme un pape a déjà renoncé, pourquoi est-ce qu'on ne réussirait pas finalement à pousser un pape à démissionner? Mais évidemment, c'était à la fois oublier la force tranquille du pape François, son ancrage spirituel. Il n'a pas vacillé sous l'attaque. Mais c'est vrai que moi, je me souviens effectivement de l'ambiance dans l'avion où, voilà, donc c'était la dernière nuit avant le retour à Rome. Et donc, évidemment, conférence de presse et les journalistes, légitimement, posent la question à François, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de Mgr Vigano? Et là, il nous dit, mais je ne répondrai pas, je vous laisse faire votre travail, et je vous laisse voir ce qu'il y a là-dedans, et j'ai confiance en votre sérieux
professionnel. Votre capacité d'analyse et d'enquête.
Voilà, que tout ça, s'effiloche de soi-même.
Alors juste, excusez-moi, mais Nicolas Solès...
Voilà, c'était quand même très, très bizarre.
On y reviendra donc sur le choix du silence du pape François, parce que vous y consacrez une partie de votre livre à la fin. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de Mgr Vigano. Probablement pas aussi largement que vous le faites dans le livre, puisque vous y consacrez un bon chapitre. Mgr Vigano donc n'est pas un inconnu. Loin s'en faut, il a eu de multiples responsabilités. Il a été entre autres, moi je l'ai découvert dans votre ouvrage, secrétaire général de l'État du Vatican. C'est lui qui a en partie contribué à remettre, on va dire, d'aplomb les finances du Saint-Siège qui n'allait pas fort. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, sans rentrer trop dans le détail, sur cet homme que l'on découvre dans votre livre comme un homme, un homme de gouvernement, un homme qui a quelques mérites, mais qui est aussi un personnage atrabilaire, vous dites, ou connu comme tel au Vatican, et qui après être, envoyé à Washington, va mal tourner.
Oui, alors il a été donc secrétaire général de l'État de la Cité du Vatican, donc c'est une espèce de premier ministre du petit État qui sert de support à toute l'action du Saint-Siège et du Pape. État qui était extrêmement mal géré, il faut le reconnaître, jusqu'aux réformes que le Pape François a poussées. C'est vrai que voilà, Mgr Vigano a été l'un de ceux qui ont pris le taureau par les cornes pour éviter, ça et là, une véritable gabegie d'argent qu'il y a pu y avoir. Mais effectivement, ayant tendance aussi, sans doute, à s'attribuer peut-être plus de mérite qu'il n'en avait, parce qu'il n'a pas été tout seul, même s'il a effectivement mis en œuvre une politique dont il n'a sans doute pas été le seul décisionnaire. Mais voilà, et quand... À la fin de sa mission, il espérait être promu à un poste plus élevé. Et il n'a pas eu ce poste et il en a été extrêmement vexé. Au point que, voilà, on lui a proposé ce poste d'ambassadeur de nonce apostolique aux États-Unis, qui est extrêmement prestigieux. Tous ses prédécesseurs ont, au terme de leur mission, fini avec la pourpre de cardinal. Donc, c'est plus qu'un placard qu'on lui proposait. C'était vraiment une vraie promotion. Mais il l'a très mal vécu et il l'a vécu comme une remise en cause de son travail. Et c'est d'ailleurs ce qu'il écrit au pape Benoît XVI à un moment. Il écrit une lettre en disant « Je ne peux pas accepter cette promotion parce que ça va être perçu en interne comme une remise en cause des réformes que j'ai pu mettre en œuvre. » Or, ce courrier... va fuiter dans la presse.
Ça va faire
ça
partie
va
des fameux
début
Vatilix,
de l'affaire des Vatilix. C'est le premier courrier des Vatilix, c'est le tout début. Et effectivement, voilà, donc Mgr Vigano n'est pas un inconnu parce que son nom était déjà sorti à l'époque.
En deux mots, les Vatilix, c'est pour rappel donc des documents qui avaient fuité sous le pontificat de Benoît XVI.
Voilà, c'était des documents venus du bureau même du pape Benoît. Dont on a vu après qu'ils avaient été pris sur le bureau de son secrétaire particulier par le majordome du pape, qui ensuite les a, on ne sait pas très bien comment, transmis à des personnes qui se sont chargées de les transmettre à des journalistes d'investigation qui les ont publiés. Et ces papiers montraient justement la gabegie des finances vaticanes. Et ça va être l'occasion pour le pape François de lancer vraiment sa réforme des finances, achevée justement par son successeur François.
Alors, il y a un épisode qu'il faut mentionner. Vous ne parlez pas que de cela. Vous parlez aussi, vous dites que Mgr Vigano est un homme riche. Il y a eu des déboires avec ses frères et sœurs quant à une question d'héritage. Vous rapportez ce propos. On imagine que ce n'est pas pour calomnier, mais pour essayer de situer les choses. Il y a ce voyage aux États-Unis qu'a fait le pape François et un événement que vous citez dans votre livre. On en avait peut-être parlé à l'époque, mais si vous pouviez le rappeler aux auditeurs qui commencent à dire. Déjà le divorce profond qu'il y a entre cet homme et le pape François.
Oui, déjà quand il arrive aux États-Unis, hein, Mgr Vigano met en place, hein, continue la politique que lui a, voilà, la politique que le Vatican demande, hein, pour l'Église américaine. On est dans une Église qui est en profonde réaction avec les innovations, en particulier sociétales, portées par le pouvoir à l'époque, hein, par Barack Obama. Une des questions, c'est l'Obamacare, hein, cette assurance santé obligatoire que le président américain demande à tous les employeurs, y compris effectivement les employeurs d'église, et à qui l'oblige à rembourser l'avortement ou la contraception pour leurs salariés. Donc on comprend que pour les catholiques américains, il y a un véritable problème de conscience, et donc il y a un véritable bras de fer, une véritable guerre qui... s'engage entre la hiérarchie américaine et le pouvoir de Barack Obama, et le nonce apostolique va profondément appuyer, hein, les évêques américains dans leur combat et se rapprocher au fur et à mesure des secteurs les plus durs de l'épiscopat américain, jusqu'à nommer des gens plutôt issus de ce secteur-là plutôt que de gens plus ouverts au dialogue, tout en étant contre cette politique, mais plus ouvert à un dialogue.
Alors, quelle est cette rencontre qui a lieu lors du voyage du pape François, un peu malgré le pape François, organisée par Mgr Vigano ?
Et justement, quand François arrive au pouvoir, il essaye justement d'entrer dans une logique de dialogue avec le pouvoir américain, avec Barack Obama. Et quand il vient aux États-Unis, c'est justement pour promouvoir cette nouvelle approche. Or, le nonce lui suggère de rencontrer une greffière d'un tribunal américain qui s'est faite connaître en refusant de donner des certificats de mariage à des couples homosexuels, arguant de sa liberté de conscience. Donc s'ensuit toute une affaire judiciaire, elle est sommée d'obtempérer et d'obéir à la loi, et elle est finalement démise de ses fonctions et devient un peu l'héroïne de tous ceux pour qui, aux États-Unis, la liberté de conscience serait remise en cause par Barack Obama. Et le nonce réussit à la faire rencontrer par le pape François. Il organise une rencontre au moment où lui-même quitte la nonciature apostolique.
Rencontre discrète,
évidemment,
en l'occurrence,
ça, hein, se sait. Rencontre discrète. Alors, ça devait être une rencontre discrète, sauf que, à peine le pape remonté dans l'avion, la greffière en question se répand sur la façon dont elle a pu rencontrer le pape. Et finalement, tout le bénéfice de ce voyage qui était censé apaiser les relations entre les responsables américains et le pape s'effondre. Et ça, François va en être extrêmement fâché de la façon dont il a l'impression que son ambassadeur aux États-Unis l'a piégé avec cette rencontre.
Mgr Vigano, on va faire une première pause. D'autres choses à découvrir dans votre ouvrage. Vous rapportez juste cette fois des propos tenus à l'adresse de la Curie. C'était en décembre 2014 où le pape François parlait de la maladie de celui qui se sent immortel et immunisé, de la pétrification mentale et spirituelle, de la rivalité, de la vanité, de la rumeur, de la médisance et du commérage. Et vous attribuez, entre autres, on comprend au fil de votre plume que cela pouvait s'adresser, entre autres, à Mgr Vigano. On fait une première pause et puis on vous retrouve pour continuer à parcourir ce livre sur lequel on va faire deux émissions, j'ai oublié de le préciser, tant il est riche et important, « Comment l'Amérique veut changer de pape » paru aux éditions Bayard.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Comment l'Amérique veut changer de pape, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, et aussi donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin et le titre de votre ouvrage, Nicolas Senez, paru aux éditions Bayard. Je rappelle que vous êtes permanent du quotidien La Croix au Vatican, et ce depuis 2016, et vous avez donc publié ce livre récemment, je le disais en introduction, qualifié par le pape François lui-même de véritable bombe. Alors il n'a pas dit véritable, mais en tout cas il a utilisé le mot bombe. Dans votre livre, donc, on découvre ce qui se cache derrière l'affaire Vigano, cet ancien nonce apostolique à Washington qui a donc demandé rien moins que la démission du pape. C'était en 2018. Et je l'ai dit un peu précédemment, ouvrage sur lequel on va faire deux émissions. Alors il y a une autre figure dont il faut parler, c'est le cardinal McCarrick, donc ancien archevêque de Washington. Là aussi, il y a une suspicion, en fait, qui s'est développée autour de sa figure. Ça serait de la responsabilité du pape François. Savait-il ou pas, puisque c'est ce que Mgr Vigano laisse entendre de ses agissements en matière de pédocriminalité. Vous y consacrez un chapitre, vous l'appelez l'homme du scandale. On va essayer de refaire le fil de tout cela. Vous expliquez donc que le cardinal McCarrick était un personnage extrêmement influent aux États-Unis et charismatique, qu'il fallait attribuer à l'entourage de Jean-Paul II ce qu'on appelait à l'époque l'appartement, sa nomination à Washington en dépit de quelques suspicions à son égard. C'est un peu difficile de lire ça dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette nomination?
Oui, c'est-à-dire que Mgr McCarrick, qui est archevêque de Newark, qui est déjà donc un gros poste, hein, c'est une ville importante dans la grande banlieue de New York, il a un peu séduit Jean-Paul II au moment où Jean-Paul II vient justement à Newark lors d'un de ses voyages apostoliques, et il apparaît vraiment comme une des figures les plus éminentes de l'épiscopat américain. Surtout, il est connu comme un fundraiser redoutable, vraiment un des évêques américains capables de susciter des donations importantes pour l'épiscopat américain. Et voilà, ça attire l'attention sur lui, même si à l'époque, effectivement, un certain nombre d'évêques américains font remonter à Rome le fait que derrière cette façade, il pourrait y avoir des questions de mœurs qui les inquiètent. Voilà. Mais il n'y a pas, à ce moment-là, encore d'accusations effectivement précises, c'est plus des rumeurs, et sans doute Mgr McCarrick joue de ce flou pour réussir malgré tout à être nommé au poste extrêmement prestigieux d'archevêque de Washington, hein. C'est l'archevêque de la capitale américaine, donc vraiment celui qui a aussi en main devient le principal responsable dans l'épiscopat américain des relations entre l'Église et le monde politique.
Alors juste à propos de cette nomination...
Juste après, il est nommé cardinal, voilà.
À propos de cette nomination, donc, vous citez donc Mgr Stanislas Dziwicz, qui était donc le secrétaire particulier de Jean-Paul II. On dit que c'est à la fin du pontificat de Jean-Paul II, je le dis de manière triviale, mais c'est un peu lui qui faisait la pluie et le beau temps. Ça paraît choquant quand même, cette nomination par Mgr Stanislas Dziwicz, alors qu'il y avait, certes, personne n'avait porté plainte à vous lire, mais il y avait quand même des suspicions importantes. Je lis qu'en 1994, déjà, un prêtre avait écrit au successeur de McCarrick et l'avait averti de... Bref, il y avait de nombreuses plaintes déjà à son égard d'agissements, on va dire, plus que troubles, non?
Oui, et puis par exemple, certains lui reprochaient une proximité extrêmement forte avec des séminaristes, où il aurait couché dans le même lit que des séminaristes. Alors lui affirme que c'était des choses... s'était resté totalement chaste, mais qu'il avait été imprudent, et sans doute, effectivement, il est allé à Rome s'expliquer face aux accusations au moment où sa nomination à Washington était en balance avec ses rumeurs, expliquer qu'il ne s'agissait là que de rumeurs, qu'il avait peut-être été imprudent, etc., etc., et réussi, effectivement, sans doute aussi par le fait, comme je vous le disais, hein, c'était un très bon fundraiser, et il était sans doute un de ceux qui permettait à l'épiscopat américain et aux grandes fortunes américaines justement de venir en aide au Vatican, qui avait effectivement besoin d'argent. Il était sans doute aussi un de ces fundraisers du Vatican, donc sans doute avait-il une oreille peut-être plus...
Mais alors, juste, je vous arrête parce que ça peut paraître extrêmement choquant ce que vous dites. Je retrouve plus les chiffres, mais vous dites que, bref, l'Église américaine est l'Église la plus riche du monde, que sa participation, on va dire, au budget du Saint-Siège et à ses œuvres est importante.
C'est un tiers du budget du Saint-Siège. Hein,
voilà. Ouais. On imagine quand même que les gens ne sont pas nommés archevêques ou cardinaux parce qu'ils rapportent des sous à la Sainte Église de Dieu, non? C'est...
Non, mais on peut reprenons un autre exemple qui est celui de Martial Maciel.
Le fondateur des
Légionnaires du Christ. Hein, on se souvient à quel point cet homme, dont on a su plus tard qu'il avait mené plus qu'une double vie, c'était une triple vie. Il avait deux femmes plus une concubine, alors qu'il se présentait comme le champion de l'orthodoxie et qu'il a été extrêmement protégé par l'entourage proche de Jean-Paul II. Justement parce que un de ses charismes, c'était justement d'apporter beaucoup d'argent, y compris à des caisses noires qui ont servi à des choses extrêmement extrêmement belles. Hein. Voilà, Marcel Maciel a en partie financé Solidarność en Pologne et contribué à faire tomber le communisme. Donc,
mais l'entourage, voilà, l'œuvre
était belle, mais l'argent était sale.
Mais l'entourage de Jean-Paul II savait-il en fait, connaissait-il réellement le profil de ces personnes? Est-ce qu'il y avait juste des suspicions? On a l'impression que ça peut entacher quelque part la mémoire de Jean-Paul II même.
Il connaissait certainement les accusations. Hein. On sait que par exemple le cardinal Ratzinger était extrêmement inquiet et prenait très au sérieux les accusations contre Maciel, par exemple, et que l'entourage de Jean-Paul II a brutalement fait arrêter toute enquête. Enquête que Benoît XVI, une fois élu, un de ses premiers actes, hein, ça a été de reprendre le dossier qu'on lui avait fait mettre sous la pile du temps de Jean-Paul II pour le mener à bout et condamner Maciel. Donc voilà, Benoît XVI savait, et sans doute l'entourage savait, mais voilà, c'était aussi dans un contexte du pape polonais où les affaires de mœurs dans la Pologne communiste servaient à salir des prêtres dès qu'ils gênaient un petit peu le pouvoir. Et puis Maciel apparaissait aux yeux du Vatican comme un exemple de la reconquête catholique, en particulier en Amérique latine, contre le danger communiste. Donc tout ça fait que voilà, il était bien vu et que les attaques contre lui apparaissaient comme des attaques sans doute injustes, et il s'est énormément servi de ça pour mener sa double vie.
Alors le cardinal Makaryk, avant qu'on voit les accusations de Monseigneur Vigano à l'égard du pape François sur cette affaire, avait une place très importante au sein de l'épiscopat américain. Alors certes, il était cardinal archevêque de Washington, donc on imagine que déjà ça fait une première chose. Mais rappelez-nous un peu, là, vous l'aviez dit lors d'une précédente émission, que lui et Mgr Vigano avaient façonné, c'est ce que vous aviez dit, je crois, une partie de l'épiscopat américain actuel.
Ah ben, clairement, il a été aussi responsable des relations internationales, hein, de l'épiscopat américain. Donc un vrai pouvoir au sein de l'Église américaine. Est-ce qu'il a façonné? Oui, en tout cas, il faisait partie de ceux qui pouvaient apporter des gens, identifier des profils pour l'épiscopat. Et surtout, il a fondé donc un énorme organisme qui s'appelle la Papal Foundation, qui était une fondation qui servait à ramasser de l'argent pour financer des œuvres dans le monde au nom du pape. Et ça a été un outil formidable pour l'épiscopat américain d'influence jusqu'à encore quelques années, parce que même si c'était des œuvres financées par le pape, c'était en fait l'épiscopat américain lui-même qui décidait quelles œuvres étaient financées ou pas au nom du pape. Donc ça leur donnait une puissance de feu extraordinaire pour influer sur toutes les églises à travers le monde qui avaient besoin d'argent.
Monseigneur Vigano lance donc comme accusation dans son fameux témoignage. Il laisse entendre que le pape François avait été mis au courant des agissements du cardinal Makaryk et qu'il aurait choisi de ne rien dire. Vous reprenez l'affaire, on va dire, pied à pied, année après année ou presque. En tout cas, votre démonstration est tout autre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la chronologie des faits et surtout de la connaissance qu'avait le Saint-Siège des agissements du cardinal McCarrick.
Alors, il y a une première étape, c'est déjà sous Benoît XVI, hein, où les accusations contre Mgr McCarrick se font plus précises. Il vient de partir à la retraite, donc il n'est plus archevêque de Washington, et là, les services du Vatican ont des accusations quand même assez précises contre lui. Alors, comme c'est un cardinal, toute sanction doit être prise par le pape lui-même. Et Benoît XVI lui demande, alors le punit pas vraiment, il n'y a pas de sentence contre lui, mais lui demande de se mettre en retrait et de ne plus paraître de façon officielle. Et d'ailleurs, on le voit, hein, si on regarde bien, par exemple, quand il vient à Rome, il n'est plus reçu, il n'obtient plus d'audience en particulier avec Benoît XVI. Il n'apparaît que dans certaines audiences où il y a cardinaux américains. Et on voit qu'effectivement, il essaye par tous les moyens de résister à ces demandes faites, alors pas par Benoît XVI lui-même, mais en tout cas par ses principaux collaborateurs. Et c'est sûr qu'il profite à la fois que tel nonce est plus ou moins faible, ou quand le nonce apostolique meurt, il accusait ce nonce de l'avoir... de l'avoir persécuté, hein, il a employé ce mot-là, et puis une fois qu'il meurt, ben, du coup, il se sent un peu plus libre d'agir à sa guise.
On lui demande aussi d'aller dans un monastère et il refuse. Hein,
il refuse, voilà. Donc, il arrive à trouver, à force de résister, une retraite plus confortable qu'un monastère. Et parmi, apparemment, les instructions qui sont données à Mgr Vigano quand il arrive comme nonce aux États-Unis, c'est aussi d'être vigilant vis-à-vis du cardinal McCarrick. Et force est de constater que voilà, il n'exerce pas vraiment cette vigilance. Voilà.
Alors oui, allez-y,
Benoît XVI arrive au pouvoir. Enfin, Benoît XVI renonce au pontificat. François arrive aux affaires. Et qu'est-ce qui est donné vraiment? En tout cas, Mgr Vigano affirme qu'il a transmis au pape François les éléments qui étaient qu'il avait en sa possession, mais effectivement, il n'y a rien de nouveau, donc...
Plus que ça, c'est-à-dire
François ne peut pas prendre... Voilà, François ne peut rien prendre, va pas prendre des sanctions, estimant que... Voilà, Benoît XVI ayant agi, il ne peut pas revenir sur la chose jugée.
Alors, excusez-moi, il y a quand même cette entrevue où Mgr Vigano rencontre le pape François et lui laisse entendre qu'il est... Comment dire, le pape François lui pose une question à propos de McCarrick ou plusieurs. Comment est-il? Interroge-t-il? Et puis, Mgr Vigano dit, écoutez, McCarrick, on a un dossier épais comme ça sur lui. Et le pape François, donc, aurait changé de sujet. Parce que l'attaque de Mgr Vigano, c'est de dire qu'il aurait voulu quelque part sensibiliser le pape à l'importance des accusations et qu'à ce moment-là, le pape et son entourage auraient fait la sourde oreille. Alors, qu'en est-il?
Alors, il lui dit qu'il est corrompu et effectivement, le pape François connaît un peu Mgr McCarrick. Il s'est déjà frotté à lui à propos justement d'un institut religieux qui est assez conservateur, qui allait chercher un petit peu des prêtres, notamment en Argentine, des prêtres qui avaient été refusés dans les séminaires pour telle ou telle raison. Et Mgr McCarrick s'occupait d'ordonner ces prêtres-là. Et à la colère, hein, des évêques argentins, dont le président des évêques argentins, qui lui reprochait d'être... justement, d'ordonner prêtres des hommes dont on avait trouvé qui avaient peut-être des problèmes et donc de ne pas être assez regardant. Donc ça, il était déjà assez connu là-dessus par Bergoglio. Et puis, Bergoglio sait le côté fundraiser du cardinal McCarrick, connaît sans doute ces questions liées à de l'homosexualité. Mais voilà, le cardinal McCarrick a plus de 80 ans, c'est un vieil homme. Est-ce qu'il est encore en mesure d'avoir des relations homosexuelles? Bon, c'est pas l'une des priorités du moment, sachant que pour François, il y a des dossiers autrement plus graves, en particulier les problèmes d'abus sexuels sur mineurs qui touchent de plein fouet l'Église à ce moment-là. Et donc, voilà, François ne cherche pas à aller plus loin que les décisions qui avaient été prises par Benoît XVI, jusqu'au moment où, cette fois-ci, il ne s'agit plus de relations homosexuelles, mais ils parviennent au diocèse de New York et dans les semaines qui suivent, ça remonte à Rome,
C'est le mai.
l'accusation cette fois d'abus sur mineurs.
Voilà, mai
Et là,
2017.
François va agir très vite, puisque ces questions-là, qui n'ont même pas encore été jugées par la justice américaine, il va laisser la justice vaticane agir très vite, et Monseigneur le cardinal Macquarie, qui est d'abord démis du cardinalat, ce qui était une sanction qui n'était jamais arrivée dans l'Église depuis près d'un siècle, et puis va laisser la procédure se poursuivre auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui va renvoyer de l'État clérical Monseigneur Macquarie, donc Monsieur Macquarie maintenant. Et ça, voilà, c'est allé très vite, et on ne peut pas dire qu'on... Voilà, François aura été celui qui aura pris les sanctions les plus graves et les plus dures contre Monseigneur Macquarie.
Voilà, c'est ce que vous dites, hein. Au terme de ce long récit, donc c'est votre chapitre, on voit donc que le pape François a en fait était celui qui aura pris les premières et véritables sanctions contre le cardinal abuseur. Mais malgré tout, pardon, je me permets d'insister parce que c'est comme ça qu'en tout cas certains ont pris les accusations de Monseigneur Vigano. On se dit que le Saint-Siège aurait pu, on va dire, être proactif. N'est-il pas possible pour le Saint-Siège de mener des enquêtes précises et de ne pas attendre que quelqu'un finisse par venir avoir le courage de porter plainte, en l'occurrence aux États-Unis, pour troubler la carrière ecclésiastique d'un homme comme Macquarie? Est-ce que le Vatican n'aurait pas pu être plus proactif? On a l'impression que c'est un peu l'accusation qui est portée par Monseigneur Vigano.
Ah bah sans doute qu'au moment où il a été nommé archevêque de Washington, il y avait des accusations quand même au moins sinon convaincantes, du moins au moins troublantes, on aurait pu à ce moment-là s'éviter. Et d'ailleurs, un des évêques qui s'oppose à la nomination de Macquarie à Washington le dit, écrit à Jean-Paul II, dont il a la confiance, et si on le nomme, on va s'en mordre les doigts et l'Église sera éclaboussée de boue comme jamais. Donc il sait des choses, mais voilà, à ce moment-là, on n'y prend pas garde, et Benoît XVI va se refuser effectivement, lui, à prendre des sanctions plus dures que de simples admonestations ou demandes, que ses représentants sur place, dont Monseigneur Vigano, vont d'ailleurs appliquer avec assez peu de rigueur, justement.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, Nicolas Senez, vous rapportez dans votre livre que quand Monseigneur Vigano a porté son accusation donc en 2018 contre le pape François, je le rappelle au retour donc de son voyage en Irlande, l'appelant à la démission, la réaction de l'épiscopat, et ça va introduire en fait la thèse de votre ouvrage, Comment l'Amérique veut changer de pape, je rappelle c'est le titre de votre livre, que 24 évêques américains ont emboîté le pas à Monseigneur Vigano. Ça paraît fou aujourd'hui. Expliquez-nous un petit peu comment Monseigneur Vigano n'a pas été un cavalier seul.
Oui, il n'a pas été cavalier seul parce que, effectivement, non, aux États-Unis, il a participé assez directement à la nomination de nombreux évêques, hein, qui lui doivent leur siège épiscopal. Et en particulier dans tout un secteur ultra-conservateur qui suit Monseigneur Vigano dans sa croisade un petit peu pour très ultra-conservatrice. Parce que derrière cette accusation, en fait, de Monseigneur Vigano, c'est l'affrontement de deux églises. Hein, il y a l'église que promeut le pape François, où la cause des abus sexuels, c'est ce que François appelle le cléricalisme, c'est-à-dire le pouvoir de trop important donné à la figure du clerc, à la figure du prêtre, qui, explique-t-il, crée une culture de l'abus, parce que le prêtre ayant tous les pouvoirs, ben, il a tendance à, dès qu'il y a du pouvoir, il a tendance à en abuser, et cet abus de pouvoir devient abus spirituel et peut insensiblement se transformer en abus sexuel. Donc il y a cette vision-là, et puis il y a une vision américaine extrêmement moralisatrice qui est de dire les abus sont dus à l'homosexualité, c'est parce qu'il y a des homosexuels dans l'Église et qu'on les a laissés au poste de responsabilité que c'est la cause de tous nos abus, et donc il faut sortir les homosexuels, on n'aura plus de problème, et surtout on continue comme avant. Or François récuse cette analyse, d'abord parce qu'il a une connaissance beaucoup plus poussée de ce que c'est vraiment que l'abus sexuel, des questions de pédophilie. Voilà, quand on a un peu étudié les affaires de pédophilie, le lien homosexualité, pédophilie est quand même extrêmement difficile à faire. Mais voilà, ces gens-là qui sont vraiment dans une croisade moralisatrice n'ont que faire de ces subtilités, de ces questions-là.
Comment l'Amérique veut changer le pape, paru aux éditions Bayard, c'est le titre de votre livre. On fait une deuxième pause et puis on vous retrouve pour la fin de cette première émission, premier de deux volets. On attaquera un autre chapitre, l'Amérique contre le pape.
Emmanuel Pella.
Comment l'Amérique veut changer de pape, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin et le titre de votre livre, Nicolas Senez, paru aux éditions Bayard. Et je rappelle, vous êtes le correspondant à Rome du journal La Croix. Dans cette dernière partie de l'émission, j'aimerais qu'on commence à creuser la thèse de votre livre. On a pu l'entrevoir déjà. Hein. Par ce chapitre, donc l'Amérique contre le pape, vous décrivez tout un monde anti-François, tout un monde, on va dire, ultra-réactionnaire, si je dois prendre un qualificatif, qui court en partie aux États-Unis. Vous nous expliquez aussi, vous nous faites rentrer un peu dans les détails de l'histoire, vous en aviez parlé à cette antenne, qu'il y a une bascule en fait dans l'épiscopat américain. Une bascule qui est à situer autour des affaires de pédocriminalité qui ont coûté en fait très cher à l'Église, et à l'occasion de cette crise, et en partie donc de cette crise financière, des riches mécènes ont pris la main, on a l'impression à vous lire, ont pris la main sur l'épiscopat américain, voulant la gérer un peu comme une entreprise. Expliquez-nous cet épisode clé, semble-t-il, dans l'histoire de l'Église américaine.
Oui, jusqu'à ces affaires de pédocriminalité, on a une église américaine extrêmement puissante où ce sont les clercs, hein, les prêtres, évêques, qui vraiment contrôlent l'église, qui font des hôpitaux, des écoles, des universités, des ensembles extrêmement riches, mais qui restent contrôlés par les prêtres et vraiment comme des businessmen. Or, au moment les affaires de pédocriminalité obligent l'Église à payer d'importants dommages et intérêts, et ça remet en cause la figure de ces prêtres comme gestionnaires, parce qu'on s'aperçoit à quel point ils ont très mal géré ces affaires-là. Maintenant, on le sait, hein, en déplaçant tel ou tel prêtre, et à quel point ils ont été de piètres gestionnaires. Et ce sont donc, ils se tournent vers les riches laïcs américains pour leur demander... l'argent dont ils ont besoin, ne serait-ce que pour perpétuer leurs œuvres sociales, d'enseignement ou hospitalières, pour ne pas qu'elles soient liquidées, pour payer les dommages et intérêts. Or, du coup, les laïcs, à partir du moment où ils sont ceux qui payent, ces laïcs-là, vont aussi vouloir avoir légitimement leur mot à dire sur la façon dont l'Église est gérée. Et d'une certaine façon, d'ailleurs... En soi, ce n'est pas une mauvaise chose que des laïcs soient plus impliqués dans la gestion de l'Église. On a vu à quel point
Et comment...
voilà, ce cléricalisme avait été mortifère pour l'Église. Donc ça c'est pas un souci.
Mais comment est-ce qu'ils deviennent de véritables dirigeants du catholicisme américain, pour reprendre vos propres mots ?
Ben, à partir du moment où ils payent, ils sont en droit de dire ben, « si vous voulez que mon chèque, à la fin de l'année, il faudra prendre telle ou telle décision. »
Est-ce que vous pouvez prendre des exemples dans ces cas-là ? Quel était leur pouvoir d'injonction à l'épiscopat américain ?
Par exemple, donc au moment de l'Obamacare, hein, donc il y a eu cette... on en parlait tout à l'heure, hein, donc ce projet de Barack Obama...
De sécurité sociale américaine, on va dire.
Sécurité sociale, et qui remboursait, y compris les questions d'avortement, de contraception. Tous les responsables d'église n'étaient pas prêts à une attaque frontale contre Barack Obama, d'autant que cette sécurité sociale permettait aussi aux plus pauvres d'avoir une sécurité sociale, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là. Donc il y avait un vrai souci aussi des plus pauvres. Et par exemple, un certain nombre de congrégations religieuses, en particulier féminines, ont refusé d'entrer dans le combat frontal que voulaient imposer ces laïcs. Et donc du coup, ces laïcs ont exigé des évêques qu'ils aillent à Rome demander une enquête sur les religieuses américaines. Ça, c'est un des exemples. Et donc, Rome a déclenché une enquête de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur de supposées erreurs doctrinales chez ces religieuses.
Alors, dans votre livre...
Ça va quand même très loin dans, dans le pouvoir qu'ils pouvaient avoir.
Dans votre livre, on découvre du coup certains de ces, comment dire, de ces personnages influents et riches de l'Église américaine et certains de leur label ou en tout cas de leurs étendards, les chevaliers de Colomb que vous citez, qui sont à la tête d'une fortune de 100 milliards de dollars. Vous parlez donc aussi de la fondation du Napa Institute. Vous parlez aussi de Legatus ou de la Federal Society. Donnez-nous un petit peu l'architecture derrière. C'est quoi ? Ce sont tout simplement de riches businessmen ? Ou est-ce qu'il y a plus derrière ces riches Américains qui, on va le voir dans la prochaine émission, aujourd'hui, voudraient presque que le pape François parte ?
C'est toute une nébuleuse derrière, effectivement, d'instituts, de fondations, où chaque businessman a un petit peu son œuvre qu'il finance, et puis qui se finance entre elles, et que chacun finance un petit peu l'œuvre de l'autre, voilà, qui porte chaque fois sur des sujets très précis. Par exemple, le Napa Institute, ça sera sur une réflexion en particulier sur les questions économiques et financières. Il va y avoir des réflexions sur justement la défense de la liberté de conscience face aux attaques de l'administration Obama. Il va y avoir ceux qui seront plus impliqués sur les questions pro-vie, ou alors ceux qui voudront défendre qui sont impliqués, hein, la Federalist Society, alors qui n'est pas spécifiquement catholique, mais c'est un énorme lobby juridique très influent dans la nomination des juges fédéraux et des juges à la Cour suprême, très proche effectivement des idées républicaines.
Et qui ont obtenu des résultats aussi, vous pouvez peut-être le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une partie
ils
de...
Ils ont sous les mandats de George Bush père et fils, et sous celui de Donald Trump, activement participé à la nomination et réussi la nomination de plusieurs juges de la Cour suprême. Le dernier en date, nommé par Donald Trump, c'était clairement les listes, les sélections de candidats ont été faites
Brett
par
Kavanaugh.
La Federalist Society, qui a donné les noms à Donald Trump. Donc on est quand même vraiment dans une influence jamais vue. Et ce qui permet justement, en choisissant ces juges à la Cour suprême, en particulier hein, sur les questions de pro-vie, les questions d'avortement, qui est aujourd'hui l'un des clivages de la société américaine, de faire en sorte que la Cour suprême revienne sur son ancienne jurisprudence autorisant l'avortement dans la société américaine.
Nicolas Senez, dans votre livre, et on finira par ça ou presque, avant la prochaine émission, le fond de votre thèse, c'est donc qu'une partie de l'Église américaine aujourd'hui travaillerait dans la suite de Monseigneur Vigano, et puis à l'occasion aussi de ces accusations, à renverser le pape François ou à faire en sorte que le prochain pontificat soit comme une correction de son pontificat. Expliquez-nous un petit peu ce qui se trame. Donc on a compris que certains lobbies de l'argent avait été à la manœuvre au sein de l'épiscopat américain, mais de là à soutenir Monseigneur Vigano ou à vouloir faire tomber le pape François, il y a un pas qui est peut-être difficile à franchir, mais c'est une des thèses de votre livre. C'est la thèse de votre livre, pardon.
Oui, l'idée pour eux, c'est que les réformes engagées par François remettent en cause leur propre vision de l'Église. Alors, qui n'est pas conservatrice, j'aime pas ce clivage progressiste-conservateur qui aurait tendance à faire de François d'ailleurs un pape progressiste, alors que à bien des égards, il est aussi un pape conservateur. Par exemple, quand il parle de l'avortement. Donc, le clivage est plutôt sur les réformistes et les rigoristes. Or, voilà, eux sont sur une vision extrêmement rigoriste de l'Église et ils n'acceptent pas les réformes engagées par François pour rendre l'Église plus crédible face aux évolutions de la société actuelle. Et donc, pour eux, le pape François est dangereux pour l'Église. Il frôlerait l'hérésie et il faut donc à tout prix se débarrasser de lui. Et donc, le « à tout prix », c'est en partie en le poussant à la démission ou en préparant, si on estime qu'on ne peut plus aujourd'hui le faire revenir sur sa réforme et en freinant les efforts de la réforme et puis en préparant le prochain conclave en faisant en sorte que le pape suivant revienne sur les réformes engagées par François.
Voilà, ça a même un nom, ça s'appelle le Red Hat Report, vous en parlez dans votre livre, ce serait un rapport qui serait en cours sur tous les cardinaux aux quatre coins de la planète pour essayer de développer tout un système de fake news autour des candidats qui gêneraient. On va donc se donner rendez-vous la semaine prochaine, tout simplement dans 8 jours, à l'occasion du prochain mercredi pour la suite de ce livre. Ce livre, je le disais en introduction, qui a été qualifié par le pape François de bombe. « Comment l'Amérique veut changer de pape » paru aux éditions Bayard. Merci Nicolas et rendez-vous la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.